Éphésiens chapitre 4, verset 17. Voici ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur. Vous ne devez plus marcher comme les païens, qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Ils ont l'intelligence obscurcie, ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés au dérèglement pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Si du moins vous l'avez entendu, et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller par rapport à votre vie passée du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu, dans une justice et une sainteté que produit la vérité. C'est pourquoi renoncez aux mensonges et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain. Car nous sommes membres les uns des autres. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère et ne donnez pas accès au diable. Que celui qui dérobait ne dérobe plus, mais plutôt qu'il travaille en faisant de ses mains ce qui est bien pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise. Mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. Oh, j'aurais aimé avoir 5 semaines pour partager ce beau texte. Mais on va en prendre un dimanche matin rapidement. Paul, il nous parle d'abord, comme on a dit qu'on doit marcher différemment, alors il nous présente d'abord la conduite des incroyants. L'incroyant, il se conduit à l'intérieur des limites de sa personne. De sa personne non régénérée. Il est limité. Le texte nous dit, et il nous donne 4 caractéristiques comment le non-croyant est limité dans sa perception. Il nous dit d'abord qu'ils marchent, les païens, selon la vanité de leurs pensées. Ils marchent, les non-croyants, ils marchent selon leurs pensées qui sont vaines, qui sont vides, qui sont absurdes. Le non-croyant, sa réflexion est sans direction précise et sans fondement solide. Le non-croyant, il suit le courant. Il suit le courant d'air. Il suit le courant de la société. Il marche selon ses pensées vides, absurdes. Il suit le courant sans savoir où le courant le mène. La Bible dit dans Proverbes chapitre 14, verset 12, « Telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la mort. » L'incroyant, il ne sait même pas qu'il s'en va vers la mort. Il pense qu'il s'en va dans la bonne direction. Jésus disait, « C'est pas tous ceux qui m'appellent Seigneur, Seigneur, qui vont entrer dans le royaume de Dieu. » Il dit qu'il fallait passer par la porte étroite. Il dit, « Large est la porte. » Spacieux le chemin qui mène à la perdition, et il y en a beaucoup qui entrent par là. Est-ce qu'ils le savent? Probablement même pas. Mais ils marchent selon leurs pensées vaines. Ils ont l'intelligence obscurcie, ils nous mentionnent. Leur vision, leur compréhension du monde manque de lumière. Ils manquent de clarté, il manque de perspective, comme on voyait dans Jean chapitre 9, tantôt avec David. Un aveugle, il ne peut pas voir comme il faut, il manque de lumière, Il manque de compréhension, il manque de perspective, il manque de clarté. Pourquoi la Bible dit dans 2 Corinthiens chapitre 4, verset 4, les incrédules, il nous parle des incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence afin qu'ils ne voient pas briller la splendeur de l'Évangile de la gloire de Christ. Le monde a l'intelligence obscurcie et il ne voit pas le diable, le Dieu de ce monde, aveugle les gens pour qu'ils ne voient pas la beauté, la splendeur de l'Évangile, qui n'est pas soif de Dieu. Ils ont l'intelligence obscurcie, les non-croyants. Ils sont étrangers à la vie de Dieu. Et ils n'ont pas de communion avec le Dieu vivant. Ils n'ont pas goûté personnellement que Dieu est bon. Peut-être qu'ils connaissent des choses sur Dieu, mais ils ne connaissent pas Dieu de manière personnelle, de manière vivante. Ils n'ont pas de relation personnelle avec Jésus-Christ, avec Dieu. D'une part, il n'y a pas de connaissance intellectuelle de Dieu. Ils ne connaissent pas la vérité de la Bible. Ça devrait nous mettre du poids sur les épaules. Si mon ami incroyant est étranger à la vie de Dieu, c'est premièrement parce qu'il n'y a pas la connaissance de base intellectuelle de Dieu. Quand on rencontre des incroyants et qui n'ont aucune notion de Dieu, encouragez-les à d'abord avoir un Nouveau Testament, à lire un Évangile de Jean, à lire la parole de Dieu. Parce que la foi va venir de ce qu'on entend, puis ce qu'on entend va venir de la parole de Dieu. Mais notre société est étrangère à la vie de Dieu. Il dit d'une part parce qu'ils n'ont pas l'intelligence, regardez, à cause de l'ignorance qui est en eux. Ils ont besoin d'entendre le message de l'Évangile, mais aussi à cause de l'endurcissement de leur cœur. Ils n'ont pas de communion avec le Dieu vivant parce que leur cœur est en rébellion contre Dieu. Le cœur, dans la Bible, ça parle de l'affection, de la volonté, de l'intelligence. Le mot ici est sclérosis. Leur cœur est sclérosé et endurci. De sorte qu'il n'y a pas de connexion avec Dieu. Jean 17, 3, vous le connaissez. La vie éternelle, c'est quoi? C'est qu'ils te connaissent, toi le Dieu vivant et celui que t'as envoyé Jésus-Christ. À ceux un jour qui vont se présenter devant Jésus puis qui vont dire, Seigneur, Seigneur, j'ai parlé en ton nom, j'ai fait des miracles en ton nom, j'ai fait plein d'affaires en ton nom. Jésus va dire, Matthieu 7, 23, alors je leur dirai ouvertement à ces professants qui n'ont pas de relation intime avec Jésus, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. L'incroyant, il n'y a pas de communion avec le Dieu vivant. Et finalement, l'incroyant, il n'y a pas de boussole morale. Ils ont perdu le nord, ils ont perdu tout sentiment. Puis par conséquent, ils se sont livrés au dérèglement pour commettre de toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Il n'y a pas de boussole morale, du bien et du mal. T'aimes ça? Vas-y mon homme, c'est correct. T'aimes pas ça? Ça doit pas être bon pour toi. Notre monde a perdu le nord moral, a perdu la boussole morale. Il vit alors pour lui seul et il fait sa propre loi au détriment des autres. Alors le non-croyant, il trouve sa valeur dans des plaisirs égoïstes, l'impureté qu'il mentionne. Il trouve sa sécurité dans des possessions égoïstes. Il nous parle de la cupidité. Ça ressemble-tu à notre société d'aujourd'hui? Ça c'était écrit à peu près 2000 ans. Là. Les non-croyants qui marchent selon des pensées sans trop savoir ce qu'ils vont, avoir l'intelligence obscurcie, ne pas connaître le monde avec la perspective de Dieu, pas avoir de communion intime, personnelle avec le Dieu vivant, puis pas avoir de boussole morale. Ça ressemble-tu au monde, ça, vous pensez? Moi, j'ai l'impression que oui. Pensez-vous? Ça ressemble. Bien entendu, c'est une généralisation de notre culture. Bien que tous les individus ne vivent pas dans l'extrême de ces quatre domaines-là, chaque être vivant, bien entendu, a une dignité. Mais la conduite de chaque être vivant, elle est concernée là-dedans. Elle est coupable devant Dieu d'une manière ou d'une autre. Le chrétien est appelé à marcher à contre-courant. Est-ce que nous avons quelque chose de mieux à offrir? Avons-nous comme croyants mieux que cela pour nous définir? Qu'est-ce qui nous motive? Qu'est-ce qui définit notre conduite? Est-ce qu'on a mieux que ça? Ben, Paul, il dit oui. Et j'espère que dans chacun de vos cœurs, vous dites, oui, c'est vrai, moi, c'est pas ça qui me définit. Et Paul, il va parler d'un changement intérieur, initié à la conversion et qui va se manifester de façon visible, de façon extérieure. À partir du verset 20, il dit, mais vous, je pense qu'il parle des chrétiens, vous chrétiens, c'est pas ainsi que vous avez appris Christ. C'est différent. Vous, les chrétiens, depuis leur conversion, c'est différent. Vous avez été placés sous une nouvelle administration et par conséquent, vous ne devez plus marcher comme les incroyants. Parce qu'il dit, parce que vous avez appris Christ. Le chrétien a appris de Christ et il a appris Christ. Encore le mot mantano ici qui est le verbe apprendre, apprendre en imitant. C'est pas comme ça que vous avez appris Christ, vous avez appris en imitant Christ. En d'autres mots, vous êtes devenu un disciple de Christ. À la conversion, vous avez choisi un modèle, Christ, et vous avez appris de lui. Si du moins, vous l'avez entendu. Puis si vous avez été instruit, vous avez appris de Christ. Vous avez entendu sa voix, vous avez été instruit par lui. À la conversion, le croyant a pris Jésus comme son maître, comme son sauveur, comme son Seigneur et comme le modèle de sa vie, le modèle de sa conduite. Et il a découvert en Jésus la vérité qui l'a affranchi de l'esclavage du péché, la vérité qui va mettre maintenant une direction à sa conduite. De sorte qu'il ne marchera pas, comme disait Éphésiens 2:2, selon le train de ce monde. Le chrétien, il a changé de train. Il y avait un train qui menait vers la mort, il a changé de train, et là, il y a une autre direction, il s'en va vers le ciel. Ça paraît. Ça paraît. C'est pas, il dit, pour vous autres, vous avez appris Christ. Alors, vous ne devez plus marcher comme les chrétiens. L'enseignement de Christ nécessairement doit amener un changement de style de vie. Et un style de vie qui va être basé sur la vérité. Et la vérité telle que je la vois dans la personne, dans la conduite de Jésus. On ne doit plus marcher comme les païens. La vérité dans le cœur du chrétien produit nécessairement, le texte nous dit, la justice et la sainteté dans la conduite du chrétien. Si mon cœur a changé par la venue de Christ, ma conduite doit nécessairement changer. Elle doit découler de ça. Et Paul va parler du vieil homme qui s'en va, qui est transformé vers un homme nouveau. Je ne sais pas si on a pu placer mes petites bébelles, mais j'avais un acétate, mais comme d'habitude, j'envoie ça à mauvaise adresse électronique, puis là, je donne la panique aux frères à l'arrière le dimanche matin, qui n'ont pas les choix. Mais Paul va nous parler d'un changement intérieur qui va aller vers un changement extérieur. Vous ne devez plus marcher. Paul explique que la sanctification, est-ce que c'est là? Ah oui, je l'ai. Ah, yes. Merci, en arrière. Paul explique que la sanctification, c'est un processus. C'est un processus qui se développe de l'intérieur vers l'extérieur. Et qui passe du dépouillement du vieil homme, c'est-à-dire de notre ancienne manière de vivre sans Dieu, et du revêtement d'un homme nouveau. Il parle comme du linge. Il dit, quand vous êtes converti, vous avez décidé de changer de vêtement. Votre vieil homme, ce qui vous caractérisait, vous avez décidé de vous en débarrasser. Le texte dit vous dépouiller. Moi, j'ai écrit renoncer. De dire non, c'est plus comme ça que je m'habille. Et là, vous avez regardé dans le livre de mode, la Bible, la mode du chrétien. Alors, vous avez regardé, hey, qu'est-ce que je peux mettre? Et là, vous avez changé votre manière de percevoir les couleurs, les valeurs. Vous avez renouvelé votre intelligence. Puis après ça, vous avez renouvelé votre garde-robe. Vous êtes mis à revêtir des choses nouvelles. Vous n'avez pas juste débarrassé de vos vieilles affaires, puis retourner dans votre garde-robe, puis remettre des vieilles affaires. Ça, c'est changer un mal pour un autre mal. J'arrête de boire, puis je commence à fumer. Je me suis débarrassé. Je donne un exemple, là. Mais vous êtes dépouillé. Vous avez changé la programmation, la cassette. Vous avez pitonné, vous avez fait changer les programmes. Puis après ça, vous les avez appliqués dans la vie de tous les jours. Vous êtes passé du vieil homme à l'homme nouveau. Et ce changement-là, il nous dit, il est constant, il est progressif et il est visible dans le temps. Renoncez au vieil homme. Renouvelez l'intelligence. Downloader une nouvelle programmation selon la pensée de Christ. Et revêtir l'homme nouveau, la conduite selon le nouveau modèle. Romains 12, 2, il dit, « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés, comment? Par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable, parfait. » Mais ça doit commencer là. À la conversion, vous avez renoncé. Maintenant, vous devez renouveler votre intelligence et ça va se manifester en revêtant l'homme nouveau. Et après ça, il va nous parler de cette conduite sainte, des changements extérieurs que ça va causer. Le chrétien qui a appris du maître pour pouvoir le contempler et ensuite le refléter à travers une vie de, transformée à l'image de son maître. J'aime 2 Corinthiens 3, 18, il dit, « Et nous tous qui le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés en son image dans une gloire dont l'éclat ne cesse de grandir. » Et dit, c'est là l'œuvre du Seigneur, celle de l'Esprit. 2 Corinthiens 3, 18 dans la traduction Bible Sommeur.